Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes en direct de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Sous vos applaudissements, le maximum de bruit. Merci de nous suivre partout où vous êtes, en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Merci d'être à l'écoute de cette émission de la vie au quotidien. Voici le menu de ces jours. Nous allons parler de l'emploi, comment décrocher un emploi juste après ses études ou comment entreprendre. On en parle dans la première partie de cette émission et ensuite dans la deuxième tranche de ce programme, nous parlerons de la pacification, comment vivre en communauté, vivre ensemble, comment résoudre pacifiquement les conflits entre les communautés, le cas de l'Angola et de Mbole ici dans la province de la Tchopo. Merci à toute l'équipe de production, Clément Chimanga, Debs Vita, Tati Mapuku, André Kitenge, Jacques et toute la grande équipe d'Okapi Service. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama et merci à vous tous d'être venus participer à cette émission. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort? C'est parti.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, merci de nous écouter, de nous suivre sur les plateformes digitales de Radio Okapi et grâce à la retransmission live de Clément Chimanga. Alors, on va parler de l'emploi. Vous savez, dans la province de la Tchopo, ils sont nombreux chaque année, ces jeunes diplômés de l'université et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, mais leurs rêves, leurs aspirations sont anéanties parce que il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi. Et ceux-là, les quelques qui recrutent, les quelques entreprises qui recrutent vous exigent par exemple d'avoir déjà 5 ans d'expérience, c'est que les jeunes n'ont pas. Alors, comment résoudre cet épineux problème d'accès à l'emploi pour les jeunes? On parle de plus en plus aussi de l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les opportunités qu'il y a dans la province? Comment devenir patron de son propre, de son entreprise? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions, préparer vos questions aussi que vous allez adresser aux intervenants. Alors, nous avons sur ce podium Monsieur Jean-Paul Nindou, il est coordonnateur des activités au sein de l'ONG Solidarité pour la défense des droits humains. Monsieur Jean-Paul, bienvenue, bonjour.
Merci.
Alors, quel état des lieux vous faites de l'emploi dans la province de la Tchopo? Est-ce qu'on peut dire que la plupart des jeunes qui terminent accèdent facilement à l'emploi ici?
Non, il n'est pas question d'affirmer brutalement que les jeunes qui finissent les études accèdent facilement à l'emploi, mais il faut situer la problématique au niveau de la formation même. Qui forme-t-on chez nous, de la maternelle jusqu'à l'université? On forme qui? Pour faire quoi dans la société? C'est ça la problématique autour de laquelle j'aurais voulu focaliser plus d'attention. Et au regard du déphasage qui existe entre la formation et les besoins des entreprises, c'est tout à fait normal que beaucoup de ceux qui finissent aient des difficultés d'embrasser le milieu professionnel. Voilà notamment la question qui reste pendante.
Et le déphasage, c'est à quel niveau généralement?
L'inadéquation entre la formation, nous restons théoriques, nous restons traditionnels, alors que les lignes bougent, le monde avance. Nous restons dans la formation théorique. Quels sont les besoins contemporains de l'univers, même chez nous, localement ici? Si nous prenons le cas de la province de la Tchopo, de la ville de Kisangani, qu'est-ce qui nous intéresse au plus haut degré maintenant là? On parle de changement climatique, on parle de ceci, de cela. Est-ce que toutes les filières confondues mettent-elles l'accent sur ces innovations? Ou encore nous restons dans la tradition, nous formons comme par le passé, alors que les choses évoluent. IAP, nous avons été recrutés pour mener des investigations dans le cadre des enquêtes GRESS, c'est-à-dire la gestion des ressources, la gestion des risques sociaux et environnementaux.
Oui.
Et nous étions en contact avec beaucoup de représentants d'entreprises et qui se plaignent tous pratiquement de la même chose. C'est-à-dire la formation doit être révisitée, doit être recadrée. Ici, il faut, si cela ne dérange pas, qu'on tienne les états généraux de l'enseignement, par exemple.
Donc, vous voulez dire que la formation donnée à l'université ne correspond pas aux besoins des entreprises sur le terrain?
Depuis la maternelle, moi je ne parle même pas seulement de l'université, depuis la maternelle jusqu'à l'université, on reste théorique, c'est-à-dire l'université ou la formation tout court reste en dehors de l'univers. On forme les gens comme d'habitude, alors que les besoins ne sont plus les besoins d'autrefois. Les programmes restent les mêmes, les modes d'enseignement les mêmes. Brutalement, on vient de nous brisquer avec les systèmes LMD. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons tous les atouts? Avons-nous deux pieds sur terre pour affronter les systèmes? Voilà toute la problématique autour de laquelle il fallait focaliser l'attention.
Alors, vous estimez à quel taux, quel est le taux de chômage ici dans la province de la Tchopo?
À la Tchopo, le taux de chômage passe impérativement par la fermeture de beaucoup d'entreprises. Autrefois, il y avait la sorgerie, il y avait la sauteski qui fonctionnait à plein régime, il y avait l'Unibra, il y avait la sucrière, je crois, de l'Autokila, etc. Beaucoup de ces entreprises n'existent plus. Hein? Même les petites et moyennes entreprises, plusieurs d'entre elles sont fermées. Alors, le taux de chômage, en tout cas, doit, ici à Kisangani, si je ne m'abuse pas, doit être au-delà de 90%.
Au-delà de 90%.
Si particulièrement dans le milieu des jeunes.
Alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez épinglé d'abord le système éducatif qui ne correspond pas aux besoins sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour aider ces jeunes gens à s'en sortir?
Moi, je crois qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Au même moment qu'on recycle, on révisite les systèmes éducatifs, au même moment, on peut prendre ceux qui ont fini et on les soumet à un recyclage pour que les uns et les autres se retrouvent par rapport aux besoins contemporains de la société. Sinon, en fait, l'histoire risque de se répéter avec les mêmes erreurs du passé.
Bien, mais de plus en plus, on parle de l'entrepreneuriat. Si on n'arrive pas à trouver de l'emploi, on peut créer son entreprise. Est-ce que il y a des structures qui aident les jeunes ici à lancer leur propre business?
Mais, Jolie, écoutez, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, faut-il encore avoir une formation y afférente? Sinon, on risque d'y aller comme au Moyen-Âge, avec toutes les conséquences possibles. Moi, je crois qu'il faut une formation. L'entrepreneuriat n'est pas ce que tout le monde peut faire. Il faudrait une certaine capacitation des jeunes, qu'on les regroupe même par rapport aux filières, par rapport aux besoins, etc. Et les formateurs viennent, on les dispense les atouts pour qu'ils se débrouillent dans la société. Sinon, bon, ils vont tout de suite glisser dans l'activité avec toutes les conséquences possibles.
Alors, comme le taux de chômage est très élevé, qu'est-ce que les jeunes font alors? Ceux qui terminent les études, qu'est-ce qu'ils font comme activité?
Bon, ils sont plus dans les débrouillardises, hein. Moi, je n'appelle pas ça entrepreneuriat. On se débrouille de n'importe quelle manière et on vit d'une manière spontanée. On fait ce qu'on peut faire. On n'est pas sûr. On le fait pas en professionnel pour dire que, en fait, la formation vaut la peine ici. Vaut la peine pour renforcer les compétences et renforcer les capacités.
Ben, il semble qu'il y a des jeunes aussi qui savent même pas rédiger le CV, la lettre de motivation. Il y a par exemple un qui avait écrit « Prenez-moi s'il vous plaît, je suis orphelin de père et de mère ».
Mais en fait, dans son CV. Là vous me rejoignez, joli. J'ai dit que le système éducatif chez nous ici, il y a à boire, à manger et à vomir. Vous imaginez? C'est que les papiers que les récipiendaires présentent ne correspondent pas au niveau. Nous avons été recrutés à maintes reprises ici pour étudier les dossiers des uns des autres. Lorsqu'ils passent à l'interview, mais c'est formidable. Quelqu'un qui termine l'université, il vous parle un français où tous les verbes sont à l'infinitif. C'est grave, ça.
Tous les verbes à l'infinitif. Bien, on va recueillir les questions dans la salle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les jeunes à maximiser les chances de trouver de l'emploi ou à se lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, il y a déjà une première personne qui veut intervenir. Tati, rapidement avec le micro, on va recueillir les questions dans la salle.
Au capé.
Nous parlons de l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, c'est Olivier Bolembe de la radio communautaire Mwangaza. J'ai une petite question que je vais poser à monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'emploi après les études? Parce que ça ne va pas à Kisangani ou à la Tchop. C'est juste cette petite question.
Merci. Le suivant.
Oui, merci. Nous, c'est Fabrice Debo, coordonnateur provincial du Parlement aux enfants et jeunes et président de l'enceinte provinciale citoyenne. Vous avez posé la question à notre intervenant de parler de taux de chômage dans la province de la Tchopo, mais aussi vous lui avez posé la question de savoir qu'est-ce que ces jeunes font face à ces fléaux. En tout cas, beaucoup de jeunes ici à Kisangani se lancent dans la délinquance juvénile. Aujourd'hui à Kisangani, nous vivons dans un état, donc un état dans un autre état. Aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup de groupes de jeunes. Il y a également les groupes appelés États-Unis, Topaz. Donc, on a beaucoup de groupes de jeunes. Ce qui est aussi l'inquiétude de la population. Nous vivons l'insécurité totale de la ville de Kisangani. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de l'emploi. Alors, le gouvernement doit créer de l'emploi aux jeunes. Aujourd'hui, nous n'avons plus Sauteski, nous n'avons que la Bralimont qui fonctionne. Et donc, si par exemple, on a trois industries ici à Kisangani, vous allez voir que nous allons commencer à occuper les jeunes. Si ces jeunes-là sont occupés, vous allez voir qu'il n'y aura pas vraiment la délinquance, mais aussi ils n'auront pas le temps de créer des dégâts dans la ville, puisque ce sont ces jeunes-là qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisés par les autorités. Donc, il y a des jeunes-là, s'ils créent des désordres, les autorités les appellent, ils échangent avec, et vous voyez qu'ils négocient avec ces jeunes-là comme si l'État n'a pas la force. Vous voyez que c'est déjà un grand défi que nous vivons dans la vie de Kisangani. Et donc, l'État doit créer de l'emploi pour répondre aux désirs de ces jeunes, mais également aux organisations
qui sont là. Mais est-ce que l'État doit créer des emplois où les jeunes eux-mêmes peuvent créer leur propre business?
Oui, les jeunes également, les responsabilités sont partagées. Il y a aussi des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ce sont ces jeunes-là qui ne sont pas soutenus. Et il y a aussi les systèmes d'information. Si ces jeunes-là ne sont pas informés, et comment ils vont postuler, par exemple? Il y a souvent des informations clés, verrouillées. Vous ne savez même pas qu'il y a de l'emploi, et donc vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment contourner pour y arriver. Donc, c'est vraiment un grand défi qui
inquiète
la jeunesse.
D'accord, merci. Il y a d'autres mains levées de l'autre côté, Tati. Comment résoudre cette épineuse question de l'emploi des jeunes? Bonjour, madame.
Merci, je suis madame Niki. Seulement, je me demande, cette question, je nous la pose à nous tous, pourquoi venir parler de l'emploi? Parce qu'en tant que Congolais, nous sommes censés comprendre que depuis les réformes de la Deuxième République, je vais parler de la zaïrianisation et de la radicalisation, tous les services ont commencé, qui étaient créés dans le pays et qui utilisaient les jeunes, ont commencé à tomber un à un. Et ça a été empiré avec ce qu'on appelle le PASS, le programme d'ajustement structurel, qui est venu tuer tous les services dans le pays. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. La fonction publique est devenue pléthorique. Et si vous voulez peut-être parler de l'entrepreneuriat, mais tout s'apprend. Ici, les Belges nous ont initiés à la bureaucratie. Tout doit s'apprendre. Donc, il n'y a pas d'emploi dans le pays. La fonction publique est devenue pléthorique. Il n'y a pas d'emploi, les jeunes souffrent. Et les nouveaux riches dans notre pays, ils préfèrent investir ailleurs. Ils ne créent pas d'emploi. Donc il y a un problème de prise de conscience par rapport à ça. Les quelques entreprises qui viennent ici, comme par hasard tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils font?
Ils utilisent les jeunes comme des saisonniers, et même les cadres d'université comme des saisonniers. On ne peut plus compter
comme
sur
les journaliers.
Emploi. Oui, on ne peut plus compter sur un emploi qui vous recrute et qui tienne compte de votre situation familiale. C'est dramatique, c'est dramatique. C'est une situation grave et l'État qui nous suit peut-être en ce moment doit prendre la mesure de cette situation pour faire renaître les entreprises qui étaient autrefois tuées. Ici, c'était florissant. Il y avait Sorgerie, il y avait Sotexki, il y avait l'Otoki là. Il y avait beaucoup d'entreprises ici. Il n'y a pas d'emploi à la Tchopo, comme il n'y en a pas non plus dans le pays. Et c'est triste pour les jeunes qui terminent.
Et
ne sont pas des idiots.
Quelles sont les solutions?
C'est la responsabilité de l'État, bien sûr. Et même les entreprises qui viennent. Si l'État était conscient, il n'accepterait pas qu'ils utilisent des jeunes comme des saisonniers. Merci beaucoup.
Merci, madame. D'autres questions? Nous parlons de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.
Oui, merci beaucoup.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur. Je suis Chandran Kekote. Et je voudrais bien parler de deux choses. Premièrement, concernant l'inadéquation entre la formation qu'on donne à l'université aux jeunes et le besoin réel des entreprises sur les terrains. Eh bien, le monsieur a soulevé cette inadéquation, voulais-je dire. Cependant, les entreprises aussi ont une part de responsabilité. En ce qui concerne notamment les besoins réels du personnel qu'elles ont, voulais-je dire, elles ne présentent pas pour la plupart des fois l'air étant réel des besoins. Déjà, il se pose le problème du retraite ou de la retraite des employés. Comment on peut engager les nouvelles ou les nouveaux employés, étant donné que ceux qui sont déjà là, qui ont déjà atteint l'âge de la retraite, ne sont pas encore libérés. Et là aussi, il y a un problème qu'on devrait peut-être voir.
Dans l'administration publique.
Dans tous les cas, bien sûr, que ce soit du côté des privés, mais aussi pour l'administration publique, il y a un problème de la retraite qui se pose. L'autre problème, c'est notamment pour l'entrepreneuriat. Le monsieur nous parle de l'entrepreneuriat de jeunes. On a dit ce qu'on vient pas. Mais il y a une chose. Un jeune qui termine aujourd'hui avec peu de moyens qu'il peut se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà on trouve, il y a le fardeau réglementaire qui, en mon sens, semble être étouffant et pénalisant pour les jeunes. La question consiste à savoir comment contourner ces exigences-là réglementaires qui ne favorisent pas l'éclosion de l'entrepreneuriat des jeunes.
Merci pour toutes ces questions, mais quelqu'un nous a dit hier que les jeunes achètent les mégas presque tous les jours. S'ils pouvaient mettre de côté cet argent des mégas, ils pouvaient financer les entreprises. Voilà, vous pouvez. Ça, c'est juste quelqu'un qui me faisait réfléchir hier par rapport à cela. Bonjour, madame.
Bonjour, merci beaucoup. Je suis Marie-Thérèse Pambi. En fait, je commence d'abord par l'observation, parce que je vis que parmi tous les intervenants, il n'y a aucune femme, donc vous n'avez même pas tenu compte du genre lorsque vous organisez l'émission ici à Kisangani. Or, nous avons des femmes capables et qui pouvaient aussi intervenir dans de différentes thématiques prévues. Ma question était de savoir, nous avons un problème très sérieux de transfert de compétences par rapport à nos aînés. Vous pouvez finir les études et vous ne connaissez rien. Autre problème, à part d'abord les conditions qu'on exige dans les entreprises, il y a aussi les problèmes de transfert de compétences. Moi, j'ai un exemple concret pour ma part, où j'étais allée quelque part où j'ai travaillé. On m'a dit, ici, tu dois venir lorsque tu connais déjà travailler. On n'apprend pas au travail. Or, j'étais d'abord débutante, je devrais apprendre. On m'a dit, si je suis prête. Ils sont capables de me prendre, mais je dois tout connaître. Alors, que faire lorsque nos aînés ne savent pas nous transférer les compétences parce qu'ils voient que nous sommes en train de venir le remplacer par rapport à ces problèmes?
Bien, merci. On prend d'autres questions ou bien il faut répondre d'abord aux préoccupations? Bien, on va donner la parole au professeur Alphonse Mahindo. Il a sûrement des réponses. Bonjour, professeur.
Bonjour. Bon, merci beaucoup. Je pense que par rapport à la question de l'employabilité des jeunes, il faut d'abord se rendre compte du contexte économique et général du pays et de beaucoup de pays d'Afrique. Quelle est l'économie réelle de notre pays? C'est l'économie informelle. Et donc, il prend à peu près 80-90% de notre économie. Et pour beaucoup de pays africains, c'est au-dessus de 50% de l'économie informelle. Donc, il y a à part quelques exceptions comme l'Afrique du Sud ou quelques pays de l'Afrique du Nord, les restes, on est vraiment dans l'économie informelle. Alors, donc, si on veut vraiment regarder quelle est l'employabilité, il faut regarder dans ce secteur-là. C'est-à-dire quoi? Il faut faire en sorte que les gens qui sont dans cet informel viennent au formel, ou au moins que les gens qui sont dans l'informel, parfois certains sont même dans l'illicite, pour qu'ils viennent dans la légalité pour formaliser. Mais qu'est-ce qui bloque pour que les gens puissent aller de l'informel vers le formel? C'est justement les conditions macroéconomiques et aussi la fiscalité, la parafiscalité. Si vous ouvrez simplement une petite entreprise ici, vous allez voir le nombre d'agents qui vont venir pour vous harceler pour récupérer des taxes. Et en revanche, les entrepreneurs étrangers qui viennent dans ces pays, que ce soit des Libanais ou des Chinois ou autres, regardez les facilités qu'on leur donne. On donne exemption de ci, exemption de ça. Mais ce qu'on devrait faire, c'est de donner des exemptions, ces facilités fiscales et parafiscales. On devrait plutôt les donner d'abord aux nationaux pour faciliter, si vous voulez, la création de l'emploi. Regardez les mamans qui... Moi, j'ai fait une étude, petite étude sur les mamans qui vendent au quotidien ici. Par jour, ces mamans-là vous dépensent à différentes taxes autour de 5000 francs congolais.
Par jour.
Par jour. Maintenant, si vous calculez par mois, par an, et vous regardez leur chiffre d'affaires, en fait, elles payent plus à l'État, disons, ou aux agents de l'État, que les autres. Mais pendant ce temps, vous regardez les autres entreprises qui ne créent pratiquement pas d'emplois. Les Chinois qui viennent ici, ou les Libanais, combien d'emplois créent-ils? Mais on leur donne beaucoup de facilités, beaucoup d'avantages, et qui tuent l'économie. Et à mon avis, il faut aller d'abord là-bas. Ensuite, en ce qui concerne notre formation, comme disait tout à l'heure Jean-Paul Lindou, effectivement, il faut qu'il y ait une révision de notre formation pour qu'il y ait apprentissage à l'initiation, si vous voulez, une initiation à l'esprit d'entreprise, à l'esprit d'entrepreneuriat, parce qu'on ne se décrète pas entrepreneur pour pouvoir faire les choses. Donc, il y a besoin de faire ça. Mais il y a aussi, si on fait ce type de formation qui ne peut pas forcément être une formation à l'école, ça peut être l'INPP ou d'autres structures sociales qui peuvent faire cet encadrement, ça pourrait permettre de créer. Et je voudrais finir en disant, il ne faut pas qu'on se lève, l'État ne peut pas être le principal employeur dans un pays.
Et l'État ne peut pas créer de l'emploi, voilà, des emplois pour tout le monde.
Dans tous les pays du monde, c'est les privés, ce sont les petites et les moyennes entreprises qui créent les emplois. Dans un pays comme la France, ou l'Allemagne, les gens qui créent l'emploi, c'est les PME. Quand je dis PME, c'est les gens qui emploient 3, 5, 10 personnes, 15 personnes. Et ces petites entreprises-là, c'est eux qui créent en France 70% de l'emploi salarié. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que nous avons aussi intérêt à repenser notre économie et cesser de faire comme ce qu'on a l'habitude de faire. Les gens, ils pensent à faire « j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur ».
Bien, merci beaucoup, professeur. Monsieur Jean-Paul, vous avez suivi les différentes préoccupations.
Oui, je salue toutes les interventions qui vont dans la même direction. N'est-ce pas? Ici, certes, c'est le privé qui doit prendre le devant de la scène, mais il faudrait que l'État crée un environnement qui favorise l'avancement de tout. Nous sommes dans un environnement où la problématique de la gouvernance se pose et s'impose. Ici, il faudrait que l'État crée les conditions qui puissent permettre aux uns et aux autres de se mouvoir plus ou moins facilement. Nous avons mené des investigations, entre autres, par rapport à la corruption dans la Grande Orientale. Ces secteurs-là, en tout cas, dans ces secteurs, la corruption se porte à merveille. Lorsqu'il faut créer une entreprise, etc., on amène les dossiers au guichet unique. Chez nous, dans
vous
le
avez cas, un guichet unique de création d'entreprise.
Oui, il y en a ici à Kisangani, pour la Tchopo. Il y a à boire, à manger et à vomir là aussi. Parce qu'on va vous soumettre à des conditions et à des conditionnalités telles enceintes que vous allez pratiquement vous décourager. Donc les conditions ne sont pas réunies pour favoriser, pour faciliter la création d'emplois. Si bien que beaucoup de jeunes finissent, non seulement qu'ils n'ont pas d'atout en termes de capacité, en termes de formation, mais ils éprouvent beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas un système bancaire qui accorde le crédit, comme ça s'est fait ailleurs, par exemple.
Mais il y a des banques ici, sur place, qui...
Oui, mais ces banques fonctionnent comment? Quel est le taux? Quelles sont les conditions d'obtention de crédit bancaire? Donc, il y a toute une panoplie de conditions qui font que, si vous y allez, en fait, il faut passer généralement par les trafics d'influence. Il faut passer par la corruption, on ne le dira jamais assez. c'est que nous sommes régis par une gouvernance qui ne favorise pas l'émergence. Je voudrais également profiter de l'occasion pour m'adresser aux jeunes. Joli. Il faudrait que jeunes prennent conscience. Comme parents, nous devons également prendre conscience. Parce que ceux qui nous gèrent, le plus souvent, leurs enfants n'étudient pas dans les mêmes conditions que les nôtres. Leurs enfants étudient à l'étranger. Les soucis au plus haut degré, c'est lesquels? C'est que leurs enfants reviendront ici pour gérer les nôtres qui ont étudié dans les conditions que je venais de décrire. Donc si nous ne prenons pas l'affaire à bras le corps, si nous ne savons pas renforcer nos compétences et nos capacités, nous serons assujettis. Ici, je m'adresse aux jeunes.
Monsieur Jean-Paul, le professeur a dit tout à l'heure que l'État ne peut pas créer de l'emploi pour tout le monde. Il faudrait promouvoir plutôt l'émergence des petites et moyennes entreprises. Ce sont des initiatives privées.
Oui, mais dans quelles conditions? Quelles sont les conditions pour en arriver là? Hein, les tracasseries policières, les tracasseries administratives, la fiscalité outrée dans laquelle nous sommes. Mais ne favorise pas tout ça. C'est qu'à peine vous avez commencé, à peine vous êtes étouffé par les taxes, les redevances à payer à l'État. Si bien que vous ne savez pas bouger. Donc c'est ça toute la problématique. Il y a un jeune qui a posé la question de savoir comment trouver le travail, comment trouver d'emploi. Bon, la question reste pendante. Comment on trouve cet emploi? De quoi vous êtes capable? Je vous repose la même question, mais autrement. Vous êtes capable à quoi? C'est ça la question aussi. Hein? J'ai dit que j'ai participé aux enquêtes Grèce, hein, gestion des risques environnementaux et sociaux. Mais là, c'est clair. Les entrepreneurs et autres tenanciers d'entreprise se plaignent de ce déphasage, de l'inadéquation entre la formation que vous recevez et les besoins de leurs entreprises. N'est-ce pas? Je peux, par hasard, prendre le risque de citer un cours. De la première année graduée jusqu'en deuxième licence. Vous voyez les cours d'informatique, par exemple. Est-ce que, lorsque vous terminez la licence, vous pouvez ne fût-ce que vous débrouiller comme opérateur de saisie? Ça pose problème. Voyez-vous, toute la problématique en rapport avec la formation, tout part de là. C'est la formation qui est la base. Dès que la formation est biaisée, le reste en dépend.
Alors, en parlant de la formation académique, qu'est-ce qui doit être revu, par exemple? Est-ce qu'il faut introduire des cours où on apprend aux jeunes comment, par exemple, rédiger le CV, comment rédiger la lettre de motivation, comment lancer son entreprise, comment obtenir un financement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer, je veux dire?
Joli, risquez à ce que je puisse vous décevoir, peut-être. L'université reçoit ceux qui ont fini l'école maternelle, primaire et secondaire. Si les fondations ne sont pas bien posées, comment voulez-vous à ce que l'université fasse le miracle? Hein? Donc, il faudrait que la révisitation du programme commence à ce niveau-là. Maintenant, parce que les carottes sont cuites, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'on peut recourir à certains experts en termes de renforcement des compétences et des capacités pour tenter de récupérer et de revitaliser ce qu'on peut. À ce moment-là, on peut solliciter l'expertise des structures comme l'INPP, comme bien d'autres qui sont dans le domaine depuis la nuit des temps. Mais il faudrait aussi interroger les entreprises, n'est-ce pas? Afin d'identifier leurs besoins. On ne les dira jamais assez. Ici, on forme pour former, alors qu'il y a un besoin quelque part auquel on va faire face. Il faudrait à ce que les jeunes gens qui terminent puissent être en mesure de, en dépit de prester dans les entreprises, même s'il faut se lancer dans le business personnel. Mais quels sont les besoins communautaires? Sinon, on risque de vendre du vent.
D'accord. Professeur Maïndo, si un jeune, par exemple, se rend à la Bralima, parce qu'il veut obtenir un emploi, on lui dit, c'est comme madame a posé la question tout à l'heure, on vous dit ici, on engage des gens qui ont déjà de l'expérience. Comment aider ces jeunes à avoir les 5 ans d'expérience qui sont souvent exigés dans ces entreprises-là?
Bien, d'abord, vous savez, normalement, les stages professionnels ou académiques que les étudiants reçoivent, ça signifie qu'ils ont acquis une certaine capacité à pouvoir faire le travail, être opérationnel directement. Mais on ne devrait pas exiger des gens d'avoir une expérience de ci ou ça, sauf pour des postes de responsabilité. Parce que là, on veut avoir des gens qui ont déjà un certain niveau de compétences qu'ils ont acquis sur le terrain. Puisqu'il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un endroit où on pourrait aller là-bas pour dire non, ici, je vais d'abord pour acquérir l'expérience, après j'irai travailler. Maintenant, ce qu'on attend, parce que même dans les entreprises, quand on vous recrute, il y a toujours une période d'induction, ce qu'on appelle l'induction. Une période où on va essayer de vous apprendre la philosophie de la maison, comment travailler. Et donc, il y a toujours, en fait, une période d'initiation de chaque entreprise. Donc, ça, c'est un faux fuyant pour certaines entreprises. Mais, alors, maintenant, ce que je pense, par rapport à la question même de l'employabilité des gens, c'est nous faisons les choses pas très correctement. Nous avions ici l'opportunité de faire un changement de nos programmes qui devraient être adaptés pour rendre les gens opérationnels. Et le système LMD aurait dû nous permettre de réviser ça pour faire des curricula, donc des programmes de matière avec les différentes parties prenantes de l'enseignement. Qui sont ces parties prenantes? Il y a les parents d'abord, il y a les étudiants et même les apprenants, il y a aussi la société, donc les entreprises, les ONG, tous ceux qui vont récupérer ces gens-là, et il y a aussi l'État et il y a les professeurs qui sont là. Et donc nous tous on devrait s'asseoir pour identifier quel est le type d'homme que nous voulons, le type de personnes que nous voulons à la fin de cette cursus pour l'économie ou pour la science ou pour le droit. Alors maintenant, quelles sont les compétences qu'on peut lui donner? Alors on définit les cours par rapport à ces profils-là. Mais on a raté, on n'a pas fait ça. Mais il y a aussi autre chose. Si l'on veut résoudre ce problème, il y a ce qu'on appelle les formations en alternance. Formation en alternance, ça signifie quoi? Vous avez donc une partie de votre cursus que vous faites à l'école, vous apprenez, vous avez des théories, et une autre partie, vous êtes en entreprise ou vous êtes en immersion. Donc vous apprenez sous l'État. Et c'est ce qu'on a, en France, on appelle ça les BTS, notamment. Il y a des BTS, donc des brevets techniques, des techniciens supérieurs, où vous faites la moitié de votre temps en entreprise et la moitié en formation. Et donc si on fait cet ensemble d'appareillages, tout ça, des réformes, je crois qu'il y a lieu de pouvoir obtenir. Mais maintenant, la question que vous aviez posée tout à l'heure, l'écriture. Mais ça, l'université, je suis désolé, ne peut pas venir apprendre à quelqu'un à lire, à écrire. Ça, c'est ce qu'on fait à l'école primaire. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens, y compris d'ailleurs des profs d'université. Je vous dis, ils vous écrivent un article, vous avez envie de dire, mais c'est un étudiant ou c'est un élève qui m'a écrit ça. Mais désolé, je ne voudrais pas critiquer des collègues, mais il y a véritablement ces problèmes-là qu'on a. Les gens, ils savent pas écrire le français. Quand vous écrivez, l'employeur, avant de vous recruter, il regarde déjà comment vous écrivez. Si vous ne savez pas écrire, déjà vous êtes éliminé, déclassé. Donc, écrire, ensuite, comment vous parlez, votre présentation, lorsqu'on vous convoque à une interview, vous devez avoir la locution correcte, maîtrise la langue, mais aussi les faciès, disons, la gestuelle et tout. Comment vous vous présentez? Alors là, ça peut jouer. Et dans les CV même, quand vous écrivez votre CV, il ne faut pas faire ce que je vois ici, beaucoup de gens, ils vont mettre là-bas identité.
Identité, fils de, et de village d'origine, territoire, ceci, tout ça, collectivité.
Marié ou célibataire, catholique, ceci, tout ça. On n'a pas besoin de ça. L'entrepreneur, il a besoin de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et donc, ce que vous devriez dire, c'est vous concentrer sur quelles sont vos compétences par rapport au poste qu'on voudrait qu'on propose là-bas et montrer l'expérience que vous avez acquise pour avoir ce poste-là. Si vous faites ça dans votre CV, alors vous serez convoqué et on va alors vous faire des interviews. Mais si vous n'avez pas fait ça, j'ai vu, j'ai recruté souvent et je vous dis que c'est vraiment désolant.
Qu'est-ce que les gens écrivent généralement dans leur CV, à part le village fils de et de...
Alors, vous allez voir des gens qui vont commencer à vous faire une liste de gens qu'ils connaissent. Voilà, moi je connais tel et tel et tel. Mais ça, les personnes ressources, ça vient quand on vous demande. Voyez-vous, c'est ce qu'on attend de vous. Et il y en a qui vont même vous dire que ils ont. Il y a aussi des trous dans les CV. Les gens, parfois, ils ont terminé les études en 2015, ils font leur CV en 2020, mais entre 2015 et 20, il n'y a rien. Quand vous avez ça, votre CV d'office déclassé. Parce qu'on se dit, cette personne pendant 5 ans n'a rien fait, donc elle a perdu la touche, n'a rien fait. Si vous revenez de l'école, on peut encore dire que vous avez la connaissance théorique, mais vous n'avez rien fait, donc vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, donc il faut toujours essayer de meubler son CV.
Et on dit souvent que le CV doit correspondre à l'offre. Il faut toujours l'adapter en absolument fonction de l'offre.
Absolument. On ne peut pas avoir un CV universel. Le CV n'est jamais universel, il est toujours adapté à chaque offre. Vous avez, on veut avoir, je ne sais pas moi, un livreur de pizza. Donc, vous devez montrer que vous avez des compétences pour la livraison. Vous avez déjà fait ces métiers-là de livraison. Et vous devez montrer aussi que vous avez, vous y connaissez en pizza. Vous pouvez bien vendre les pizzas. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on demande de vous. Alors, s'il y a une autre offre qui vous demande, on cherche quelqu'un pour être un logicien. Alors, en ce moment-là, vous ne pouvez pas prendre le même CV. Vous devez montrer que vous avez fait un travail dans ce sens-là pour pouvoir, vous avez une formation d'abord. Ensuite, vous avez déjà exercé ça pour faire la logistique dans votre ONG ou je sais pas moi quoi. Et ça vous permettra de vous faire vendre, de vous faire acheter.
Professeur, alors, quelles sont les informations à mettre dans une lettre de motivation?
Alors, dans une lettre de motivation, ce qui est différent d'une demande d'emploi, une lettre de motivation, vous devez dire quelles sont les raisons qui vous font penser ou qui vous ont convaincu que vous êtes la bonne personne pour ce poste-là. Donc, quelles sont les raisons, quels sont vos motifs donc, qui vous poussent à faire ça. Alors, vous allez dire, voilà, on a demandé telle qualification, vous dites que vous les avez. Cette entreprise-là est leader dans tel ou tel secteur. Cette entreprise-là voudrait se développer dans tel domaine. Vous dites, voilà, moi, j'ai capacité de faire ça. Cette entreprise fait, par exemple, de l'informatique, tout ça. Vous êtes inférieur de l'informatique et que vous aimez l'informatique, même si vous n'avez pas les compétences, dans vos temps perdus, c'est ce que vous faites. Voyez, et c'est ça qu'on attend de vous, de votre lettre de motivation.
Motivation. Voilà. Merci beaucoup, professeur. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Ouais. Sous vos applaudissements, nous sommes à l'université de Kisangani. Nous parlons de l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes. On va recueillir encore d'autres questions dans la salle. Merci de nous écouter en live sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi. Okapi. Comment maximiser les chances de trouver un emploi à Kisangani, dans la Tchopo? Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Jordi Daniel. Pour moi, c'est un honneur de vous voir face. Je rappelle déjà que je suis un grand fan de ton émission. Et moi, c'est Olivier Ndumba Elalo, étudiant en deuxième licence informatique au centre de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Je n'ai pas vraiment trop à parler, sauf que j'ai une question qui m'est venue en idée. Je sais pas, mais si l'invité peut nous aider, est-ce que c'est la faute au sein de l'assainissement des établissements universitaires ou bien c'est simplement le problème qui revient au sein des chefs des établissements? Parce que parfois on nous demande d'amener nos CV, nos lettres de motivation, tout nous amenons, mais au final il n'y a toujours pas une réponse, il n'y a pas de réponse favorable par rapport au chef que nous amenions. Est-ce que cela s'expliquerait du fait d'une manque de mauvaise foi au sein des chefs des établissements pour mettre...
Et de plus en plus, beaucoup de jeunes sont convaincus que les offres là, c'est juste pour maquiller, mais ils ont déjà des gens
c'est ça,
à côté. C'est voilà, ce que les jeunes disent souvent.
C'est là que je voudrais, par atterrir. Merci beaucoup.
Bien. D'autres questions?
Merci. Moi, c'est M. Pelek Hérité, ingénieur en informatique de gestion. Comme on parle de l'emploi, ma préoccupation est la suivante. Comme nos intervenants, nos invités nous ont dit, on a d'abord le premier problème au niveau de l'éducation. Donc, on ne forme pas des hommes et des femmes capables pour affronter les situations de la société, pour donner la solution aux problèmes de la société. Alors, comme l'éducation est en faillite, les entreprises fonctionnent. Ils ont besoin de personnes pour faire fonctionner leurs entreprises.
Des personnes qualifiées.
Des personnes qualifiées pour le bon fonctionnement de leur entreprise. Alors, il y a aussi une part de responsabilité qui peut être retombée sur les entreprises. Si je parlais de ça, je me rappelle un jour, j'étais devant la télévision la nuit, j'ai suivi un documentaire. Les entreprises au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, ça fonctionne comme ça. Ils ont un système, ils recrutent des jeunes gens. Donc, ils vont traîner avec eux sous prétexte que après le départ de leurs aînés, c'est eux qui vont remplacer. Donc,
mais il semble qu'ici, la madame a dit qu'à la fonction publique, les aînés ne vont pas en retraite.
Oui.
Alors les postes ne se libèrent pas.
On parle en termes généraux, pas seulement les fonctions publiques. Il y a aussi les entreprises privées qui fonctionnent, comme chez nous à Kisangani. Alors, c'est le cas. Il y a aussi la part des responsabilités. Les entreprises peuvent aussi susciter ce genre des exercices, recruter les jeunes, commencer à les initier. Vous voyez ici, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça, nous fonctionnons ceci. C'est aussi une très bonne idée. Mais lorsque l'éducation est en faillite, on ne peut pas croiser les bras parce que les entreprises ont toujours besoin des gens. Ils peuvent aussi créer ce genre de système pour aider aussi les jeunes.
C'était ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions au fond de la salle?
Merci. Moi, c'est M. Didier Ndembe. Je pose la question à M. Jean-Paul Nindou.
Oui.
Avant de poser la question, j'aimerais donner un cas concret. Il y a deux jours, nous sommes allés avec un ami au guichet unique de création d'entreprise. Ça existe.
Pour créer votre entreprise.
Oui, dans le secteur de transport. Et là, on nous a demandé $200 pour avoir les RCCM, les registres d'identification nationale, l'impôt, la CNSS. Nous avions même demandé à ses frères, est-ce qu'on peut donner ça $50? Il dit, niet. Est-ce qu'on peut donner ça $70? Il dit, ce n'est pas négociable. Donc, nous étions obligés de donner $200 pour avoir toutes les,
pour tous les documents.
Pour tous les documents.
Vous les avez?
Bon, il nous a dit dans 3 jours, mais il a déjà l'argent. Il nous a dit de passer dans 3 jours pour avoir tous ces documents-là. Alors, par rapport à M. Jean-Paul Nindou, il nous a dit qu'il n'y a pas assez d'entreprises dans la Tchopo. C'est vrai. C'est un problème de climat des affaires. Le climat des affaires doit être assaini. Quand on n'a pas de route, quand on n'a pas d'électricité, comment quelqu'un peut venir investir? J'ai posé une question à un boss qui est à Goma. Il a un supermarché. Je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas venir installer votre supermarché à Kisangani? Il m'a dit que non, à Kisangani, il n'y a pas de route. Moi, j'apporte mes histoires de la Turquie. Je peux facilement ouvrir à Lubumbashi parce que je vais amener le marché par route. Je peux ouvrir à Goma parce que je vais envoyer mes marchandises par route. Mais si vous circulez dans la ville de Kisangani, il n'y a pas de supermarché. Alors, ma question maintenant est de savoir, M. Nindou, avec votre expérience, est-ce qu'ici dans la Tchopo, y a-t-il des entreprises multinationales? S'il y en a, citez-moi au moins 2 ou 3 entreprises multinationales dans la Tchopo. Merci beaucoup.
Merci. Revenons à votre propre entreprise. Vous voulez vous lancer dans quel type de transport, de marchandises ou de personnes?
Dans le secteur de transport de marchandises, il y a... Bon, je vais dévoiler ça. Il y a une entreprise qui va venir s'installer ici dans le cadre de l'exploitation de la cimenterie. Ils doivent transporter le matériel, ils doivent transporter les personnels, ils doivent transporter certains...
Voilà, et vous allez vous positionner dans la sous-traitance.
Dans la sous-traitance.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous parlons de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat dans la province de la Tchopo. Docteur Sébastien.
Merci, Monsieur Jody. C'est peut-être une contribution. On est en train d'aborder une thématique importante en rapport avec l'emploi, mais il y a un aspect important qu'on oublie. L'emploi, le travail suppose une rémunération. Pourquoi Monsieur Jean-Paul ne voudrait pas aussi évoquer les aspects liés à la politique de rémunération des jeunes? Actuellement, nous sommes en train de constater que les jeunes sont tout simplement paupérisés par ces investisseurs étrangers, notamment les Indo-Pakistanais et les Libanais. Est-ce que vous savez ce qu'on paye aux gens qui sont recrutés? Ils ont un salaire de $30-40
par mois.
Je vous dis, c'est vrai, ça ne respecte pas l'hyper et au bout du compte, ils ont des démêlés avec le système de fisc. Vous comprenez? Et lorsque on veut aller rester en justice, voir l'inspecteur du travail, les Libanais vont aller corrompre, c'est fini. Il faut aussi essayer de marteler sur cet aspect de la politique, n'est-ce pas, de l'État congolais en termes de rémunération. On a fini les études, on a un diplôme Bac plus 5 licencié, mais avec un salaire de $100, comment est-ce qu'on peut construire sa vie? Voilà, c'était juste une contribution. Merci.
Merci. Nous parlons de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes de la Tchopo. Bonjour, madame.
Oui, bonjour, je suis Généreuse Amis du club RFI. Moi aussi, je voulais rallier mon idée avec le monsieur. Nous avons les sociétés privées ici, les entreprises privées à Kisangani. Nous prenons les camps des Libanais, les Indiens, voire même les maisons de presse privées ex-Sahrani. Il y a de ces sociétés-là qui ne signent pas les contrats de travail avec les employés. On peut te chasser quand il veut et on peut te remettre quand il veut. Il peut se réveiller le matin parce qu'il est fâché. Non, tu quittes, tu vas faire ceci parce que tu as commis telle erreur, tu quittes. Et on chasse les jeunes, les Congolais, dans les sociétés pareilles, comme des chiens, comme si on n'a pas une loi, comme si on n'a pas la législation de travail. Donc, on ne sait pas. Chez les Libanais, on engage les jeunes, et un bon matin, si tu as commis une erreur, on te chasse comme ça. Et l'inspection de travail ne fait pas son travail. Je ne sais pas si ces gens-là sont protégés plus que les citoyens congolais, ou soit ce sont les citoyens congolais qui doivent être protégés contre ces entreprises-là. Vraiment, c'était ça ma contribution par rapport à ce qu'on observe dans la ville de Kisangani, plus précisément là où moi je vis. C'est une expérience vécue.
Merci beaucoup. L'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, l'invité va répondre, puis on prendra une autre série de questions. Monsieur Jean-Paul Nindou, vous êtes coordonnateur des activités au sein de l'ONG Solidarité pour la défense des droits humains. À vous la parole.
En fait, je suis flatté par rapport aux différentes interventions. J'ai évoqué une question que je n'ai pas pu approfondir. J'ai parlé du déficit gouvernemental, c'est-à-dire l'État congolais n'est place pas un décor qui facilite à protéger les Congolais jeunes, soit-il, qui veulent s'engager dans les prestations auprès des privés. Les Chinois, les Libanais, les Indiens qui viennent ici, viennent avec les coordonnées de certains opérateurs politiques de Kinshasa, si bien qu'ils deviennent inamovibles, intouchables. Vous voyez, c'est ça le décor dans lequel les jeunes travaillent. Comment voulez-vous à ce que l'inspection du travail ou je ne sais pas quelle structure puisse militer pour améliorer votre rétribution mensuelle? Non. Et ont déjà donné le pot de vin à Kinshasa. Ils ont déjà corrompu tel milieu. Ici, ils se comportent en seigneur sur une terre conquise. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils crachent sur nos compatriotes. Ça fait mal au cœur, ça. Ils crachent. Nous avons vu, il y a peu, j'ai vu à la télévision à Kinshasa comment ceux qui travaillent auprès des Libanais sont descendus dans le riz pour fermer les portes, tout ça, les conditions de travail ne sont pas propices.
On a même entendu ici un salaire de $30 le mois.
Oui, mais même lui parle, la dame parle de $100, moi je parlerai de moins de $100. Ceux qui sont ménagères et autres, on leur donne ce qu'on peut donner. C'est que nous sommes pratiquement dans la jungle, passez-moi les termes. Nous sommes à la croisée des chemins sans protection. C'est la gouvernance qui pose problème. À partir du moment où tout le monde est soudoyé par ces Indiens, Pakistanais et autres, du sommet jusqu'à la base, mais que voulez-vous? Vous voulez cueillir la banane sur le palmier à huile? C'est impossible. Le décor est planté pour la corruption et autres, l'impunité et tout ça. Ils peuvent se comporter de la manière dont ils se comportent. Autre interrogation formulée. On nous renvoie à la manière dont les entreprises fonctionnent aux États-Unis et en Europe. C'est bien. On peut s'en servir comme modèle. Mais j'aurais voulu aussi à ce qu'on jette un regard sur la formation des jeunes de la maternelle jusqu'à l'université dans ces pays mis en évidence tantôt. Hein? Parce que il faut comparer sur toute la ligne le climat des affaires. Mais c'est au-delà de tout ce qu'on chante à la radio, à la télévision, à longueur de journée. Ce n'est pas ça. Vous avez bien dit, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité, de l'énergie électrique. Nous n'avons pas d'école à Kisangani. J'ai dit, il y a peu, j'ai discuté avec un député national. Il a dit non, il ira en Turquie et au pays de Galles pour nous ramener les investisseurs. Moi j'ai dit, mais vous voulez nous vendre quoi après tout? Mais ça c'est... Je vais rêver debout. Ces investisseurs qui viendront, ceux qui viendront avec femmes et enfants, leurs enfants étudieront dans quelles écoles à Kisangani? À notre époque, les gens de mon âge qui sont dans la salle, nous avons étudié avec les Français et les Belges ici. Au jour d'aujourd'hui, les parents se sentent à l'aise
pour dire que mon fils est aidé à Kigali, au Rwanda ou en Ouganda. À notre époque, c'était ridicule, on ne pouvait pas dire ça. Les Rwandais, les Ougandais, nos voisins, venaient apprendre les savoirs ici. Bon, maintenant, voilà ce que...
Mais il y a une question que je me pose. Combien d'entrepreneurs congolais ont émergé ici dans la Tchopo? Ils peuvent servir de modèle aux autres aussi.
Oui, il n'y a pas de règles sans exception. Mais là, c'est un travail fouillé. Hein. On ne peut pas répondre à la sauvette parce qu'il faut fouiller. Aussi, ceux qui émergent, il faut les approcher. Il faut des enquêtes sérieuses. Hein. Il y a ceux qui bénéficient d'une couverture. Si bien qu'ils ne payent pas certaines redevances, ils ne payent pas ceci, ils ne payent pas cela. On a eu à observer du temps où on était dans des contrats avec certaines agences des Nations Unies ici. Vous verrez la même moto que la Betesco vend à 6 000 $, mais il y a des privés qui vendent la même moto à 4 500 $. Tout simplement parce que ils échappent à toutes ces redevances. Et si vous creusez davantage, c'est le petit frère d'un député provincial. C'est le cousin d'un député national. C'est le neveu d'un sénateur. C'est ça la République démocratique du Congo. Le problème est global. Il ne faudrait pas qu'on le voit d'une manière sectorielle. La gouvernance passe par-dessus tout. Tant que nous avons la gouvernance telle qu'elle est actuellement, où il n'y a pas une bonne programmation, c'est à la sauvette qu'on règle les affaires. Les humeurs contribuent à la gestion de la cité. Mais comment voulez-vous à ce qu'on avance, même dans le secteur de création d'emplois? Non. Non, il faut être fils d'eux. Il faut être ceci.
Oui, quelqu'un a posé la question par rapport au supermarché. Il y en a à Goma, ailleurs. Pourquoi pas ici à Kisangani? Il semble qu'il y a un problème d'accessibilité. Et pourtant, Kisangani est, disons... c'est Kisangani qui relie l'Est à l'Ouest du pays. Il est, occupe une position stratégique.
Il faudrait que on ne puisse pas, hein, on ne peut pas mettre les affaires en marche pour le plaisir de les faire. Il y a des études préalables pour voir qui seront les potentiels acheteurs et avec qui je vais faire les transactions, et comment je vais me tirer de l'affaire, etc. Il y a toute une étude. Moi, je crois que il y a ceux qui refusent de prendre les risques parce que l'environnement, comme je l'ai dit, pose beaucoup de problèmes.
D'accord. Professeur Maïndo, est-ce qu'on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est la réponse, c'est la solution pour aider les jeunes à sortir de la pauvreté et du chômage?
Bon, je ne peux pas dire que c'est la réponse. C'est une réponse. C'est une réponse, et je dirais même pas que c'est, je dirais pas l'entrepreneuriat en tant que tel, je dirais plutôt l'auto-entrepreneuriat. Il faut que chacun puisse essayer de s'initier pour entreprendre, pour faire, et ça qui peut donner du travail. Il y a un de mes aînés, le prof Mathieu Kalel, qui disait qu'il faut révolutionner les Congolais. Parce que lui, il a regardé, c'est un sociologue, il a regardé les Libanais, les autres qui viennent ici, ils viennent parfois avec juste une babouche et après un moment ils deviennent des patrons. Pendant ce temps, que font les jeunes Congolais? C'est de créer une église, c'est de créer une ONG. Et donc au lieu de créer des entreprises, on est dans les dieux, on cherche l'au-delà, on est dans la transcendance, il faut qu'on change. Les dieux ne viendront pas résoudre nos problèmes si nous créons de l'emploi. Et vous regardez le nombre de gens qui passent à aller prier. Kololobini pour na libalananga et pour na mariage, pour na moussala, pour na voyage. Non, travailler. Donc, oui. La solution elle viendra de cette révolution mentale, oui, de nous tous ici pour qu'on pense entreprendre, pour créer soi-même son emploi et que l'État crée aussi les conditions. Tout à l'heure, vous évoquiez pourquoi il n'y a pas de supermarché ici. Mais il ne peut pas y avoir de supermarché dans une ville où l'électricité est une denrée rare, où la sécurité devient devient quelque chose d'exceptionnel. Et où les routes n'existaient pas, vous êtes dans une espèce d'île. Et vous voulez approvisionner votre supermarché en produits de toutes sortes, notamment des produits, j'allais dire des produits qui sont surgelés. Comment vous amenez ça à Kisangani? Il y a quelques vols par semaine dans la ville ici. Il n'y a aucun vol international.
Professeur, on a appris que le gouvernement provincial a lancé l'opération Chopo Bilanga. Chaque samedi, tout le monde va faire le champ. On peut dire que c'est une manière de développer le business agricole.
Alors, je me réjouis que vous disiez ça. C'est une bonne chose de faire, de vouloir faire de l'agriculture priorité des priorités. Parce que je suis pas physiocrate, mais l'agriculture, c'est vraiment un secteur qui peut porter. Parce qu'on est dans une zone forestière et une région qui a une vocation agro-pastorale. Mais ça ne doit pas rester un slogan comme on a entendu depuis la nuit des temps, depuis l'époque de Mobutu. On a eu ça, agriculture, priorité des priorités, Mossala, tout ça. Mobutu avait déjà dit ça. Mutamutua, Bongisa, puis Congo, tout ça, on faisait des gestes. À l'époque, je me souviens de tout ça. Mais qu'est-ce que... Moi, j'ai une petite ferme ici à une trentaine de kilomètres de la ville de Kisangani. Pour aller à cette ferme-là, je dois payer les péages route chaque jour. Et si je dois aller deux fois dans la journée, je dois payer deux fois. Et c'est combien? Il faut payer 21 dollars pour aller là-bas. Mais comment voulez-vous que quelqu'un puisse faire une activité agricole qui soit rentable? Voyez, et c'est bien beau de faire des discours, mais il faut faire des actes qui favorisent justement, qui montrent que vous voulez effectivement faire ce secteur-là un secteur prioritaire.
D'accord. Il nous reste 5 minutes pour clôturer cette première partie. Tati, combien de minutes? On prend juste les trois derniers auditeurs et ensuite on va clôturer la première tranche de cette émission. Au Capi Service, nous sommes à Kisangani, nous parlons de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Au Capi. Bien, comment maximiser les chances de trouver un emploi dans la Tchopo, à Kisangani particulièrement? Bonjour monsieur.
Bonjour. Nous sommes Josaphat Kaloumé, conseiller juridique du Parlement des jeunes. Je suivis des interventions ici, ce qui m'a coupé un peu l'idée. Cependant, j'aimerais revenir sur certains aspects, tels que soulevés par mes prédécesseurs. Je vais prendre ce qui vient d'être dit par le professeur Mahindo tout à l'heure, l'aspect insécuritaire. Si nous prenons l'insécurité de la Tchopo, comparée à l'insécurité qu'il y a à l'Est, je prends la ville de Goma par exemple, je ne pense pas que l'on peut faire le poids. Cependant, il y a trop de sociétés, trop d'entreprises, il y a trop d'entrepreneurs et qui œuvrent effectivement dans la ville de Goma par rapport à la ville de Kisangani. Moi, je pense plutôt que c'est un souci de leadership qu'il y a dans la Tchopo. Nous avons l'habitude, la culture de trop parler, mais sans rien faire. Le professeur a pris un exemple concret que j'ai personnellement vécu. Nous avons une concession à 28 km d'ici, mais pour y accéder, c'est tout un problème. Déjà à 21, ici, il faut descendre dans la route comme si on allait au sous-sol et puis remonter. Donc, il n'y a plus moyen d'accéder là-bas, donc les affaires traînent. Et je vais prendre l'aspect du manque de transparence. Ça, c'est un problème, puisqu'il y a plus d'emplois qui sont informels que formels. On se réveille le matin... je suis matriculé. Oh, on a passé ce genre de pratiques où est-ce qu'on a lancé des offres, est-ce qu'on a lancé quelque chose comme ça, mais vous réveillez, c'est beaucoup de gens qui sont matriculés. Et comme l'a dit monsieur Jean-Paul tout à l'heure, vous vous rendez compte que s'il faut aller dans la source, il y a des liens quelque part. Tel a été appuyé par tel et os. Alors, moi
faut
je
avoir,
vais...
Il faut avoir des parapluies, comme on l'a
voilà.
dit.
Alors, je reviens plutôt plus sur le jeune. Je reviens sur le jeune. Quand nous allons au marché, il y a des prix qui sont déjà étalés et on ne peut acheter ces marchandises qu'au prix déjà fixé. Alors, comme le monsieur Jean-Paul a dit, qu'est-ce que nous avons à offrir? Puisque de la manière dont nous nous vendons, c'est de cette manière que l'on va nous acheter. Alors, si nous ne pouvons pas vendre le meilleur de ce que nous pouvons offrir, mettre à table ce que nous pouvons réellement offrir, oui. On ne peut que nous prendre pour le moins sérieux.
Merci beaucoup, monsieur. On prend la deuxième personne et puis la troisième et puis on clôture la partie. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Moi, je suis Alain Makocho Sodio. Comment on peut parler de l'entrepreneuriat lorsque la province ou la population de la Tchopo, de la province de Tchopo, sont des consommateurs?
On et non des producteurs.
Oui. Non.
Et si on ne produit pas, on fait que consommer?
Certainement, monsieur le journaliste. Donc, on importe de tout. Aujourd'hui, on est en train d'indexer les Chinois, les Libanais, parce qu'ils nous apportent. Alors nous, qu'est-ce que nous exportons en dehors de notre province? Il n'y a rien. Alors l'État peut tenir compte de cela pour qu'on puisse avoir un bon déroulement de notre province et de la ville de Kisangani. C'est ce que je peux faire.
Merci.
Comme la contribution.
Merci beaucoup. Le dernier intervenant.
Oui, merci. Nous sommes M. Chico, connu au nom de Lumumba, jeune et averti. En fait, il y a du boulot, mais les jeunes n'aiment pas du volontariat. C'est-à-dire quoi? Derrière vous ici, il y a la faculté de lettres, mais il y a des communicologues. Mais les jeunes préfèrent qu'on puisse vous appeler Madame Rachel, t'as terminé tel, venez à la radio Capi pour devenir journaliste. Non, comme je peux terminer à la faculté des lettres, je m'engage d'aller faire d'abord des volontariats. Tu cherches à devenir grand, mais accepter d'être petit. Lumumba a quitté Onalua pour Kisangani, travailler aux sociétés brassicoles, mais disait toujours au réseau propagande ou soit pré-campagne. Voilà, moi je veux dire qu'il y a du boulot, mais il n'y a pas assez de volontaires en matière de l'entrepreneuriat. Alors, les jeunes n'aiment pas de l'entrepreneuriat. Moi je veux dire que nous avons des jeunes aujourd'hui, si on voit, j'ai vu ça à Goma, à l'époque, les Gomatraciens, c'est là de Bukavu, étudier ici, le professeur Otemikongo est là. Mais aujourd'hui, l'université a perdu, ça veut dire il n'y a pas assez d'étudiants. Ils ont étudié ici, ils ont retourné là-bas, c'est qu'ils ont, en fait, ils ont eu ça ici pour mettre
pour
là-bas.
Pour aller expérimenter là-bas chez eux.
En tout cas, les jeunes n'aiment pas le volontariat. Parce que tu cherches à devenir grand, accepter d'être petit. Nous avons du boulot.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, monsieur Jean-Paul Guindou, à vous la parole.
Merci bien. D'abord, au sujet de l'environnement. Lorsqu'il faut comparer les régions de l'Est et la province de la Tchopo, je vais dire tout de suite que c'est une comparaison qui, par moment, ne tient pas la route parce que l'environnement n'est pas le même. Il y a des activités, les affaires qu'on peut réaliser à l'Est qui ne peuvent pas marcher ici et vice-versa. Donc, nous sommes complémentaires. Dire que la Tchopo, Kisangani, nous sommes une population essentiellement consommatrice, moi je ne m'inscris pas dans cette logique-là. C'est l'environnement tel que planté, les décors tels que plantés, qui fait de nous ce que nous sommes. Lorsque je parlerai de la région du Haut-Zaïre, le professeur se retrouve, le professeur Alphonse, le professeur Jean Otemikongo et les autres se retrouvent. Nous étions les troisième poule économique ici. On produisait le coton, l'huile de palme, etc. Faut pas dire ça. C'est la force des choses, c'est la gouvernance, c'est l'environnement, c'est la mauvaise gestion.
Il semble que ici, le sol ici est favorable à la culture du cacao.
L'agriculture, on peut, non seulement le café, on peut tout cultiver ici. Mais pour évacuer, de quelle manière? C'est ça la question. Il ne faut pas seulement produire, mais il faut penser aux débouchés. Les jeunes n'aiment pas le volontariat, etc. Bon, je comprends lorsqu'il donne la charge sémantique, il va un peu au-delà de tout ça. Les jeunes sont formés de cette manière-là. Même la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Il ne faudrait pas, je l'ai dit, on ne peut pas cueillir la banane sur le palmier à huile. C'est impossible. C'est-à-dire, la formation nous forme et nous déforme. Ça se colle à notre peau et par la suite, nous évoluons avec. Les jours où il y aura orientation dans la bonne direction de la formation, vous verrez que les mêmes jeunes se comporteront d'une autre manière.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nindou. On va terminer avec professeur Maïndo. Professeur, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient pour aider les jeunes à trouver plus d'emplois ou à créer plus d'entreprises et à sortir de la pauvreté?
Alors, je pense que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qu'on peut combattre et qu'on peut neutraliser, qu'on peut, si vous voulez, éradiquer. Et pour ça, il y a, à mon avis, les jeunes doivent d'abord avoir l'amour du travail bien fait. Et l'amour du travail bien fait passe par l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, c'est à partir de la maternelle. Il faut que les gens apprennent à faire des efforts, et non pas la loi de la facilité, du moindre effort. Vous allez à l'école, vous demandez au lieu de faire les travaux manuels, vous payez un peu d'argent pour faire au lieu de faire le travail manuel. Donc, ces habitudes-là, il faut qu'on arrête, qu'on apprenne et qu'on lise. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à améliorer notre manière de voir le monde et nos capacités. Et je voudrais aussi dire que Ce qu'on doit faire pour sortir les jeunes du chômage, c'est d'apprendre, que les jeunes apprennent à développer des compétences, notamment ce qui concerne l'écriture de la langue d'emploi ici, la langue officielle, c'est le français. Écrire une bonne lettre de motivation, écrire un bon CV qui puisse nous vendre avec nos biens. Mais aussi, il faut, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, ceux qui entreprennent, il faut qu'ils apprennent les règles de base de tenue de comptabilité, faire une petite administration. J'ai acheté autant, mais ça a coûté autant. Vous notez toutes les dépenses que vous avez faites et les recettes que vous allez faire pour que vous sachiez si vous avez fait vraiment des bénéfices ou pas. C'est avec ça qu'on peut évoluer. Mais, de manière générale, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait par la collectivité, c'est-à-dire l'État doit créer les conditions favorable pour permettre ces développements-là. Si l'État ne crée pas les conditions en termes de législation, en termes des incitations. Par exemple, vous voulez que les jeunes commencent à faire l'emploi, alors pourquoi ne pas faire, par exemple, des subventions aux jeunes entrepreneurs ou faire des cautions, des espèces de garanties de l'État pour que les jeunes puissent accéder à un crédit pour lui permettre de lancer son entreprise. Et donc, il y a tout un tas de choses à faire et apprendre aux gens aussi que l'Église, la foi, ça vient d'abord après le travail. Comme disait Saint Jacques, hein, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi à partir de mes œuvres. Donc on doit oublier d'abord nos Dieu, passer des veillées. Les temps qu'on passe dans les veillées, dans les prières, dans les différentes activités là, c'est du temps précieux qu'on aurait pu faire pour faire du jardinage dans sa maison, pour faire un peu de matembele et tout ça, on produirait et on gagnerait de l'argent. Merci.
Merci, professeur Alphonse Maindo. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Il est enseignant à la faculté des sciences sociales. Nous disons également merci à Jean-Paul Nindou. Merci de l'applaudir très très fort. Il est coordonnateur des activités au sein de l'ONG Solidarité pour la défense des droits humains. Nous mettons ainsi un terme à cette première partie de l'émission au Capi Service, juste après les informations. Nous allons aborder la deuxième tranche pour parler de la cohabitation.